Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
De retour au festival Entrevue pour sa 29e édition au cœur du cinéma à Pathé. Pour ce qui semblerait être la dernière émission de nos sessions Floxfort. Alors, pour cette dernière émission, a priori, on ne sait jamais, nous avons à nos côtés un habitué des émissions Floxfort et un habitué du festival Entrevue, Jean-Claude Brissot. Bonjour.
Bonjour, mademoiselle.
Qui vient présenter une troisième version de son film « Des jeunes femmes disparaissent ». Alors d'abord, Jean-Claude Brissot, j'ai une confidence à vous faire. Moi, j'ai envie de vous appeler papa. Tout simplement parce que...
Vous pourriez m'appeler grand-père, hein ?
Non, papa. Papa, parce que depuis que je viens au Festival Entrevue, je vous y retrouve chaque année. Et vous êtes en quelque sorte un passeur, en fait, pour moi. Vous êtes une figure importante, je vous assure.
Vous êtes gentil. C'est la quatrième fois que je viens, oui. Mais bon, voilà.
Comme moi, c'est la quatrième année. Donc on a un point commun. Alors pour revenir à ce film « Des jeunes femmes disparaissent », donc c'est la troisième version de ce film. Est-ce que vous avez fait trois versions parce que vous n'étiez pas satisfait de ce film
pas
ou
du
parce
tout,
que
ça
vous vouliez expérimenter plutôt ?
Non, la dernière fois où j'ai fait ce film, je l'ai fait en relief parce que je voulais voir. En fait, j'ai fait ce que j'appellerais la toute première version 8 mm noir et blanc. Quand j'étais à l'école normale, ça remonte à 40 ans. D'ailleurs, comme je suis dedans, on voit que j'ai quand même changé. Et c'était à l'époque, à l'école normale, parce que j'avais créé une sorte de groupe pour apprendre aux enseignants les techniques du cinéma, c'est-à-dire les techniques de narration, les techniques pour créer du suspense. Et j'ai fait ça en 8 mm, qui a été sonorisé après, comme ça, vite fait. Et on n'avait même pas assez de pellicule. Parfois, la pellicule a pris le jour, mais on s'est amusé. Le but n'était pas de faire autre chose. Et quasiment personne n'avait vu ce film, sauf Romer et Piala, qui s'avaient foutu la trouille à l'époque. Quelques mois après, sont sorties les caméras Super 8 Sonore. Et je l'ai refait pour m'amuser, mais cette fois-ci en Super 8 Sonore. Et ça remonte à presque 40 ans. Et jamais personne n'avait vu ces films. Parce que je pensais d'ailleurs que faire des films à suspense, tout le monde savait le faire. Je me trompais un peu. Et il se trouve que récemment, on m'a demandé à Lille, à côté de Lille, de faire un film. Et je me suis dit, j'ai découvert le relief, enfin... Je n'ai pas découvert le relief parce que quand j'étais enfant, quand j'avais 10 ans, j'allais voir les quelques films en relief qui sont sortis. À l'époque où il y avait un entracte toutes les 20 minutes à la fin de chaque bobine et où il y avait des lunettes à vert, rouge et vert. Moi, je me rappelle que je lisais même les bandes dessinées, que j'en fabriquais, enfin moi-même, n'exagérons rien, avec un crayon vert et un crayon rouge. Et je déplaçais les deux lignes et je faisais parfois sortir la figurine maladroitement faite de l'écran. Et je suis tombé l'année dernière, sur un poste en relief. Mon vieux poste Tristandar est mort et j'en ai acheté un en solde. Et je me suis rendu compte que le nouveau procédé, tout au moins chez moi, marchait très bien. Et qu'il y a des films qui utilisaient très bien le relief, d'autres beaucoup moins. Et j'ai eu envie à un moment de tester le relief sur deux choses. Sur une stylisation érotique. Deux, et surtout, sur des effets de suspense. En dramatisant des lieux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce film. Qui dure une demi-heure. Et on m'a reproché presque depuis de ne pas avoir fait un film d'une heure et demie. Bon, c'est comme ça.
Peut-être que vous y viendrez pour une quatrième version ?
J'aurais bien... Non, pas, je ne recommencerai pas une quatrième fois le même film. Mais les deux premiers datent quand même de 40 ans, hein, mademoiselle.
Oui,
et comment dire ? Non, mais ça m'a, le relief m'a beaucoup intéressé. Et j'aurais bien aimé en faire un film d'une heure et demie. Et alors, ce ne sera pas cette fois-ci un suspense, parce que j'ai toujours rêvé de faire une sorte Psychose 3, 4 ou 5, mais complètement différent malgré tout du film d'Hitchcock. J'ai toujours été intéressé par le travail qu'il faisait. D'ailleurs, dans le film, là, qui va être diffusé tout à l'heure en relief, ça se voit. Ne serait-ce que le titre, des jeunes femmes disparaissent, ça renvoie à une femme disparaît, film d'Hitchcock. Mais je répète, j'aimerais bien refaire un film en relief, surtout que c'est pas du tout aussi compliqué qu'on le dit. Le bon sens élémentaire, quand on a un retour de l'image, suffit. Suffit. Il faut quand même, penser le film en relief. Par contre, les conditions de projection ne sont pas aussi simples que ça. Il y a plein de gens, si jamais la salle n'est pas équipée, si jamais elle n'a pas les lampes spéciales, on voit trop sombre et le relief, on le voit quasiment pas. Voilà. Alors ça pose, moi ça m'est arrivé déjà 3 fois, j'espère qu'ici ça se passera très bien, mais ici vous êtes un grand groupe, ce sont les salles pâtées, c'est quand même des grands professionnels et tout devrait très bien se passer.
Alors vous disiez, Caroline, vous disiez que la deuxième version, donc vous l'avez tournée parce que vous aviez acquis une caméra Super 8, mais pour autant vous auriez pu tourner un autre film. Donc qu'est-ce que vous cherchiez en retournant ce film-là?
C'est très simple, mademoiselle. J'avais envie de tester certaines règles du suspense, telles entre autres que celles que Hitchcock utilisait. Et à un moment, je me suis dit, je vais m'y exercer. Moi, vous savez, j'étais et je suis resté d'une certaine manière totalement amateur et je voulais savoir si un amateur pouvait faire comme lui. J'ai fait ça pour tester. Le premier, le film 8 mm, il n'y avait pas assez de pellicule, elle a pris le jour, parfois elle a brûlé, ça a fait comme ça. J'ai même été obligé de temps en temps d'ajouter des plans parce qu'il fallait des plans de coupe et j'ai eu envie de le refaire, plus propre, si ce n'est que j'ai eu un appartement qui n'était pas assez grand. Et quand je répète, j'ai pas voulu le montrer quand j'ai commencé à devenir professionnel, parce que je m'imaginais que tout le monde, tous les professionnels, tous les cinéastes savaient faire ça. Je me suis trompé. Quand on voit tous les essais, je me suis trompé. Et c'est seulement maintenant que j'ai eu envie de me remettre à ça. Et pour moi, c'était presque un jeu. C'est pas la peine de chercher de la métaphysique dedans, c'est juste un truc destiné, je répète, à utiliser le relief un moment pour un truc érotique dont j'avais besoin pour des problèmes de dramatisation et d'autre part de stylisation et ensuite la dramatisation du vide.
Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une vision finalement assez simple et assez libérée de l'image, c'est-à-dire qu'on prend l'image comme elle vient, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller intellectualiser, d'aller chercher diverses interprétations, vous nous amenez tout simplement ce qu'il y a à voir. Et là j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose chez vous qui est assez récurrent, c'est l'épure. Est-ce que ce mot-là vous parle ?
Pour moi, c'est pas que ça me parle. Si vous voulez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être déplaire ou je vais me faire mal voir.
Mais non.
On est passé du moment de la nouvelle vague où les gens travaillaient sans s'occuper trop de la technique. Je pense par exemple à tirer sur le pianiste où pendant 5 minutes au début on voit 2 types qui sont dans une rue, on les voit à peine. Et de ce cinéma qu'on avait un peu rien à foutre de la technique, on est passé à un cinéma où on s'occupe, comme dans la pub, il faut soigner le coin gauche de l'écran. Et tout ça se fait au détriment de l'émotion et au détriment de la force. Là, le problème, ce n'est pas un problème d'épure, c'est que... Excusez-moi, vous regardez Psychose, je ne peux pas vous dire que ce film est pareil, où le crime était presque parfait, je me suis un petit peu inspiré de ça. Mon but n'était pas... mon but, c'est qu'on oublie l'image, qu'on oublie toute une série de choses pour pouvoir être touché. Parce que si vous êtes en train de vous occuper de ça, de la soi-disant qualité de l'image, vous ne pensez plus au reste. Et que cette fameuse qualité de l'image, sauf quand vous faites des... Enfin, je me suis amusé à me promener dans le monde entier. Si votre film repose sur la fameuse qualité de l'image, eh ben, ce ne sera pas vu par grand monde, parce que les films sont toujours mal... Enfin, sont pas très souvent bien projetés quand vous regardez toutes les salles du monde. Et que pour moi aussi... Souvent, la technique de l'image soignée, presque sophistiquée, se fait au détriment de la narration. Bref, j'ai trouvé qu'on avait tendance à faire des films chiants, en gros, et que tout le monde délire là-dessus, d'autant que parmi la critique, je peux me permettre, de, pas toutes, mais dans la critique dite intellectuelle, l'ennui n'est pas un critère négatif. Pour moi, si. Si les gens s'emmerdent, c'est que moi, je suis responsable. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas tous le même type de film. C'est un autre problème. Mais quand même, alors pour moi, ce n'est pas une question d'épure. Il y a juste une épure, mais là, je n'ai pas envie de parler de ça parce que le film sera projeté tout à l'heure, où je voulais utiliser le décor. Je voulais dramatiser du vide, mais de telle sorte que les gens ont quand même, et quand même, soit inquiet et le sentiment d'un film qui fout un peu la trouille.
Moi, ça me fait penser quand même au film qu'on a vu de vous ici, La fille de nulle part. Il y a aussi cet élément de... On attend, on sait qu'il va se passer quelque chose, on est un petit peu inquiet. C'est quelque chose... Cette inquiétude, vous y revenez ?
Oui, enfin là, l'inquiétude dans La fille de nulle part était un tout petit peu différente. N'oubliez pas que La fille de nulle part était... n'était pas destiné à l'origine à une projection. Mais
j'ai beaucoup aimé ce film, hein, je tiens à le dire.
Et oui, je sais, j'ai eu une certaine chance avec ça. Alors je sais que je... Enfin là, c'était, il y a plus un élément lié au fantastique. Alors je sais qu'il y a des choses dans le film précédent qui ont foutu la trouille. Je sais qu'un long plan séquence où on voit un personnage, moi en l'occurrence, qui sont en train de se déplacer, de nettoyer des trucs, la caméra ne bouge pas. Et à la fin, il y a une apparition surprenante. J'ai entendu dans une salle les gens qui hurlaient. Ça m'a presque fait rire parce que moi, je fais ces films-là en m'amusant un peu. Les trucs qui sont un peu plus sérieux sont ceux qui se trouvent à la fin et qui sont plus touchantes. Mais encore une fois, j'ai toujours aimé être à la limite du fantastique ou de l'angoisse quand je faisais des films. Ça, c'est sûr. Mais l'autre, celui-là est plus simple, d'une certaine manière. Là, et puis Dieu, il ne dure qu'une demi-heure, mademoiselle. Et là, une des difficultés, c'était éventuellement d'arriver à faire un suspense et de créer les conditions de ce suspense pas en 30 minutes, mais en 20 minutes, puisqu'il faut au moins qu'il y ait 10 minutes qui restent.
Alors, j'ai vu également qu'il y avait une actrice dans ce film qui s'appelle Isabelle Prime et qui avait aussi participé au montage. Est-ce que c'était important qu'elle y participe aussi ?
Oh, ça n'a absolument rien à voir. Je l'ai rencontrée, elle, à côté de Lille, là, au Frénois.
Au Frénois, oui.
Et elle m'a demandé de jouer dans le film, elle m'a demandé de participer éventuellement au montage, c'est Lisa qui l'a fait. Et j'aurais voulu surtout qu'elle m'apprenne, parce que ça je ne sais pas le faire, qu'elle m'apprenne à faire des incrustations. Comme le font beaucoup de graphistes. Hélas, moi j'ai l'habitude du montage, ma femme et moi on monte les films, mais j'ai l'habitude du montage en 16, en 35, voire en 8 ou Super 8. Mais il me manque quelque chose en vidéo parce que, sur La fille de nulle part, on a failli tout perdre. Et j'ai besoin de connaître la technique, parce que j'aimerais bien faire des recherches tout seul. Et le jour où je saurai comment on fait ces choses-là et que je serai capable de les manipuler moi-même, je peux travailler comme ça pendant 24 heures, ça gêne personne et je n'ai pas à payer toute une équipe pour s'occuper de ça. Isabelle, on s'est très bien entendu, je vais peut-être faire un film dans peu de temps et il est fortement question qu'elle joue dedans, qu'elle ait un rôle important dedans.
Au-delà de ça, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous venez de nous dire que vous êtes toujours en formation, vous avez envie d'apprendre encore beaucoup de choses, et à la fois vous adorez aussi apprendre des choses aux étudiants en cinéma, et vous êtes un des rares réalisateurs à être vraiment enjoué par cette idée-là.
Bah, si vous voulez, moi je pense que, si vous voulez, une des choses qui me navre, c'est que ceux qui avaient appris, les grands cinéastes qui avaient appris à faire du cinéma, et ceci, à mon avis, la période la plus grande a été, la période culminante a été les années 60. Mais tout le travail qu'avait appris à faire Ford, Hitchcock, Mizoguchi ou les Italiens, c'est en train de disparaître. Et en particulier, à l'heure actuelle, je vais exagérer un peu, mais à peine, il y a deux types de films. Des films pour les enfants qui s'attardent, ou les grands adolescents attardés avec les effets spéciaux qui sont la vedette, fait en général sans scénario. Moi, quand je vois certains films, j'imagine avec les effets spéciaux qu'il y a, ce que Hitchcock en aurait fait. Là, c'est pas grand-chose. Ou bien les films français qui sont à 70% des comédies ou des films pour bobos faits par les bobos. Et il y a quelque chose au niveau de, comment dire, de la technique de la narration, de l'intérêt dramatique, de la recherche sur les personnages et sur la dramaturgie sur les personnages qui a complètement disparu. Ou en grande partie. Au point d'ailleurs que certains critiques m'ont dit, nous on s'intéresse maintenant aux séries, parce que ce qu'on voit dans le cinéma commercial, le mot commercial n'étant pas pris dans ma bouche, n'étant pas à prendre dans ma bouche comme un mot péjoratif, c'est sans intérêt. Mais il est vrai que moi je ne suis pas un fanat des séries, en général ça se passe un petit peu mieux, mais ce sont des films de scénaristes, il n'y a pas de mise en scène en général si vous faites bien attention. D'abord c'est les flics, toujours les flics, encore les flics, et... à la fin j'en ai marre, mais surtout ce sont des trucs de scénaristes. J'ai rien contre les scénaristes, mais il y a rarement des séquences mises en scène. Ce sont des dialogues plus ou moins mis dans des décors plus ou moins intéressants, mais ce sont des dialogues. C'est intéressant parce que de temps en temps, moi qui écris moi-même mes scénarios, je vois tel texte, je me suis dit, tiens, c'était un texte pour une personne, et ils l'ont partagé en trois ou en quatre pour donner une réplique à chacun des acteurs qui participent. Mais dans le fond, les scénarios, d'ailleurs, la plupart du temps, sont pas mal foutus, mais il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de... Vous imaginez, par exemple, la scène de Hitchcock, la fameuse scène des avions là, avec, dans La mort aux trousses, ce type de scène où, je répète, la caméra crée quelque chose. Mais ça n'existe pas. Parce que, je répète, parce que ce n'est pas fait par des metteurs en scène. Et que les metteurs en scène, on a tendance à les oublier. Ou que, maintenant, on leur apprend plus ce travail.
Mais dans cette démarche de formation, moi je suis allée voir le court-métrage de Daphné Eretakis qui s'appelle Archipel Granit Dénudé, et vous êtes dans les remerciements. Est-ce qu'il y a un lien ?
Oui ? Je connais. Je n'y connais pas.
Ah ! Oui, bah, ça m'a sauté aux yeux.
Je ne connais pas le. C'est gentil, mais comme je ne connais pas le documentaire. Comme, enfin,
c'est un court-métrage aussi. Ouais.
Je ne connais pas la demoiselle qui l'a fait. Je peux pas vous répondre, j'en sais rien.
Ah ben ça doit être un hommage alors, je pense.
Probablement, peut-être, c'est gentil de sa part. Mais alors je sais aussi, si vous voulez, que... Enfin, vous savez, moi je viens du cinéma amateur. Alors je sais pas ce qu'il y a dans ce film, mais je sais qu'une des choses que je pense avoir peut-être essayé d'amener, d'apporter au cinéma français, c'était d'abord de revenir à des éléments de dramaturgie, mais deux, à insérer... du fantastique, ça commence à venir, et des éléments sensuels dans des films sérieux.
Bah, alors, je sais pourquoi elle vous a remercié, parce que c'est exactement ça.
Alors ça, c'est possible, mais le mélange, les gens ne s'en rendent pas compte. D'abord, ils s'imaginent que quand on met ces choses-là, c'est pour des raisons commerciales, ce qui n'est pas vrai. Ce serait plutôt l'inverse. Et que deuxièmement, c'est très difficile à réaliser. Les gens ne s'en rendent pas compte. Je me rappelle, dans un film que j'ai fait, qui s'appelle Les anges exterminateurs. J'ai une séquence entre trois filles. J'ai mis 9 heures de répétition pour la tournée. 9 heures. Enfin, 3 fois 3 heures. Ces trucs doivent être réglés comme des balais. Et c'est pas aussi... ça pose toute une série de problèmes artistiques. Vous faites un plan séquence, vous avez une fille qui est censée avoir un orgasme au bout de 3 minutes, demandez-vous, mesdemoiselles, comment vous faites, alors que vous êtes totalement froide et pour avoir un orgasme aussi vite, en donnant l'impression d'être... C'est pas facile.
J'imagine bien. Caroline ?
Oui, mais alors pour revenir au court-métrage « Des jeunes femmes disparaissent », donc vous nous avez expliqué que voilà, si vous l'aviez repris aussi, c'était ce travail sur le suspense et la dramatisation et l'érotisme qui vous intéressait. Mais pour autant, par rapport à ce que raconte ce court-métrage, le fait que vous l'ayez repris par deux fois, donc qu'il y en ait trois versions, enfin, ça suscite la curiosité. Donc, qu'est-ce que ce court-métrage et ce qu'il raconte, ça dit de votre cinéma ?
Mademoiselle, c'est, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement une affaire technique liée au relief. Moi, il fallait que j'aie une intrigue. Il fallait que j'aie une intrigue qui me permette d'utiliser un certain nombre de règles. Vous avez la première, par exemple, comme le dit Hitchcock, vous avez quelqu'un qui est en danger. Le spectateur le sait, mais l'héroïne ou le héros ne le sait pas. Il faut arriver à trouver des situations comme ça et les mettre en scène très vite. J'avais là un principe qui me le permettait.
Mais si je vous pose cette question...
C'est pour ça, uniquement.
Vous dites ça, mais en même temps, moi, si je vous pose cette question, c'est que, quelque part, ce court-métrage, il contient en germe beaucoup de choses qu'on retrouve ensuite tout au long de votre filmographie. Il y a ces figures féminines, il y a cette figure récurrente de la jeune fille, il y a ce côté... Il y a la transgression, il y a des meurtres, il y a des...
Enfin, il n'y a pas des meurtres dans tous mes films, mademoiselle.
Oui, mais il y a la transgression de la loi.
Enfin, oui, ça, il n'y a aucun problème.
Qu'on retrouve ensuite tout au long de votre filmographie.
Oui, bah ça c'est bien possible, étant donné que c'est moi qui ai écrit les scénarios et que c'est moi qui fais les films. Il faut bien qu'il y ait systématiquement des choses qui reviennent sans arrêt. Hein. Il y a des trucs qu'à l'inverse, vous ne trouverez pas. Parce que je déteste, il y a des choses que je n'aime pas et je ne les mettrai pas dans mes films. Là, par contre, une des choses également qui m'a beaucoup obsédé, c'était, je répète... le travail sur la sensualité ou sur le sexe. Et c'est pas si facile que ça, d'autant que... Alors je vais prendre une anecdote pour vous faire comprendre la difficulté qu'il y a et mon intérêt aussi. Un jour, ça remonte à loin, je devais faire un film avec une vedette dans lequel on voyait une séquence où la vedette tombait amoureuse dans une prison d'une fille et elle faisait l'amour toutes les deux. Moi, j'ai dit oui, moi, j'ai jamais vu ça dans la vie. Alors ma femme me sort, elle m'a dit oui, tu vas pas demander à des filles de faire ça pour regarder, pour voir comment ça se passe. J'ai dit bah si. Elle me dit écoute, me prends pas pour un con. On a montré souvent au cinéma des meurtres. Si tu avais un meurtre à montrer, tu n'irais pas demander à quelqu'un d'en tuer un autre, rien que pour voir comment ça se fait. Bien sûr que non. Mais le cinéma avait l'expérience de ces choses. Le sexe, sauf sur les films dits porno qui sont le degré 0, 1 ou 2 de l'écriture cinématographique, il n'y a pas. Avec en plus le fait que vous avez nécessairement un côté exhibitionniste ou voyeur chez les gens, alors que dans la vie, vous par exemple, quand vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes, sauf exception éventuelle, vous n'êtes pas en train de vous regarder. Quand vous éprouvez du plaisir et que quand vous partez, vous n'êtes pas en train de vous regarder en ce moment dans une glace. Vous êtes dans votre émotion. Et comment on fait pour la traduire ? Et l'expérience, le cinéma n'avait pas cette expérience-là. Il avait l'expérience de la simulation, pas de fait de monter autre chose. Vous aviez, je vous prends des exemples clichés, y compris d'ailleurs dans un film que j'aimais énormément, mais qui n'était pas tout à fait aussi cliché, qui est « La guerre est finie ». Vous avez des mains, on voit des mains qui bougent, vous avez. Mais les corps, vous ne les montrez pas. Et c'était moi ce qui m'intéressait, c'était de les montrer, et c'est pas si facile que ça à faire. Et là, par exemple, j'ai pris un moment de 5 minutes pour utiliser le relief et styliser, chercher une nouvelle forme de stylisation, pour voir ce que ça donne. Et je vous avoue que si c'était. J'aurais cette expérience-là, j'espère la continuer. Mais je ne ferai pas 36 000 fois le même film. Si on m'avait demandé de faire un film d'une heure et demie, alors là, je l'aurais fait. Hein. Et comme je vous ai dit, moi, de faire un film comme Psychose, j'aurais bien aimé faire ça.
Alors, je crois qu'on va devoir vous quitter dans très peu de temps parce que vous avez une nouvelle interview qui suit. Moi, j'ai juste une question.
Posez.
En fait, il se trouve que je travaille sur un livre du photographe Olivier Roller en ce moment. qui réunit 200 portraits qu'il a pu faire. Vous serez dans ce livre.
Ah bon ?
Voilà, bah, je vous l'annonce.
Il m'a appris quand ?
Eh bien, en 2010. J'ai la photo là, ici, regardez. Ce sera celle-ci.
Putain. Quelle tête j'ai.
Vous aimez pas sur cette photo ?
Oh, mais de toute façon, je me déteste. C'est mon élève, ça.
C'est Noémie Lovski.
Ah, c'est mon ancienne élève, oui.
Et ben, vous serez juste à côté d'elle dans le livre. Voilà. Et vous vous souvenez de cette séance en particulier ?
Mais mademoiselle, je peux pas me souvenir de... Ça a été pris ici ?
Non, ça a été pris à son studio, a priori. À
Paris. Je suis allé dans un studio ?
Oui.
Non, j'ai aucun souvenir, surtout que sachez, mademoiselle, que je déteste être photographié. Alors, je m'y plie, je fais ce qu'on me demande, quand c'est nécessaire, mais j'aime pas ça.
Mais c'est amusant parce que vous disiez que vous voulez montrer les corps comme ils sont, et ce photographe-là, Olivier Roller...
Oui, non, mais c'est... Mais pas moi, les corps des autres, mais pas le mien.
Et là, c'est votre visage. Et là, il essaye de vous montrer comme vous êtes. Enfin, moi, je trouve qu'il a réussi, mais...
Ah bah, très bien, si vous trouvez, moi, j'ai pas d'avis, je déteste me voir, mademoiselle.
D'accord. Bon, en tout cas, nous, on aime voir vos films.
Ah bah,
et
gentil.
On aime vous avoir à la radio. Parce qu'à chaque fois, c'est des moments spéciaux.
Vous êtes gentil de me dire ça, mademoiselle. Bon, c'est vous qui décidez. Moi pas. Je fais ce qu'on me dit et j'essaie de le faire le mieux possible. En emmerdant le moins possible les gens.
Et bien, vous nous emmerdez pas. Voilà. Merci d'être venu.
Juste une toute petite dernière question. Mais ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dit. En fait, vous parlez beaucoup de la technique... et en fait, on a l'impression que presque vous refusez le commentaire sur votre travail.
Ça dépend quel type de commentaire. Et d'abord, quand je parle de technique, c'est pas seulement de technique. Reste à s'entendre sur le sens du mot tel que je l'emploie. Par exemple, vous prenez, je prends cet exemple que je redonnais, qui vient de Hitchcock. Si ce n'est qu'il n'a pas tout dit sur la mise en scène du suspense. Un héros est en danger, le héros ne le sait pas alors que le public est au courant. Hitchcock n'a rien inventé, c'est Guignol. Mais si ce n'est que lui, il a inventé d'autres choses derrière. Par contre, même quand on dit ça, ce n'est pas aussi simple. Par exemple, le héros, pour qu'on s'intéresse à lui, encore faut-il justement qu'on s'y intéresse. Et vous imaginez, je reprends La mort aux trousses et je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Qui est le héros de La mort aux trousses ? Un quinquagénaire qui a peur des femmes, qui, à chaque fois qu'il a un bobo, appelle sa maman, c'est Woody Allen. Vous ne pouvez pas prendre Woody Allen à la place de Cary Grant. Et qui aurait pu remplacer Cary Grant ? Gary Cooper, qui était capable de jouer aussi la comédie, il avait un côté trop humain. À l'inverse, dans un film qui s'appelle Sergent York, qui est-ce qu'on aurait pu prendre à la place de Gary Cooper ? Si vous voulez, le jeu des comédiens et la présence des comédiens, la présence d'un décor, entre dans ce que j'appelle la technique. J'espère avoir répondu à votre question.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu, Jean-Claude Brissot. Et puis, bonne présentation de film. Nous, on se quitte avec cette émission, j'ai l'impression.
Oui.
Moi, je reprends la route pour Strasbourg dans quelques minutes. Je vous montre ça. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On vous aime.
Merci beaucoup.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.